RCF.
Il semble que les pères et les mères d'aujourd'hui n'aient jamais été autant soucieux de bien réussir leur métier de parents. Abreuvés de lectures et d'articles sur l'éducation, ils veulent parvenir à faire de leur bambin un adulte bien dans ses baskets et bien dans sa tête, réussissant à l'école, toute chose gratifiante pour des éducateurs. Mais la tâche éducative s'avère souvent fastidieuse et vivre aux côtés d'un enfant n'est pas de tout repos. On avait rêvé de l'enfant idéal et le réel peut nous décevoir, nous enrager, en nous culpabilisant de ne pas avoir réussi. Que se cache-t-il derrière la volonté de perfection des parents? Comment aimer son enfant tel qu'il est? Ces questions sont au cœur du dernier livre d'Isabelle Filioza intitulé « Il n'y a pas de parents parfaits » paru chez Jean-Claude Lattès. Isabelle Filioza, bonjour.
Bonjour.
Comment vous les voyez-vous, ces parents d'aujourd'hui?
Il y a toutes sortes de parents aujourd'hui. Il y a des parents qui sont démunis. Et il y a quand même cette idée que nous avons vraiment pris conscience de la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Donc, du coup, ça donne une espèce d'attention extrême à ce que je fais aujourd'hui peut le traumatiser. Ce que je fais aujourd'hui peut occasionner des séquelles. Et dès lors qu'on constate que notre enfant ne réussit pas bien à l'école, est trop timide, vit des choses difficiles et douloureuses, tout de suite, la culpabilité vient, c'est ma faute, c'est ma grande faute.
Mais il y a une pression très forte qui s'exerce, on le voit par exemple à la maternelle. Dès la maternelle, les parents entre eux se comparent, il y a une petite émulation, une pression.
Parce que nous sommes quand même dans une société qui valorise beaucoup le jugement, l'image. Et donc, c'est comme si ce qui était le plus important, c'est est-ce que j'ai une image de bonne mère? Non pas est-ce que mon enfant est heureux, se développe bien, quoique bien sûr ça rentre en ligne de compte aussi, mais trop souvent, on se retourne vers soi et on se regarde soi au lieu de regarder l'enfant et ses besoins. Et on se dit, est-ce que je suis une bonne mère? Et donc, pour choisir par exemple un comportement, j'ai mon gamin qui se roule par terre sur le trottoir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me pose la question de qu'est-ce que mon enfant a besoin pour pouvoir sortir? De quoi est-ce qu'il a besoin pour sortir de ça? Ou bien, qu'est-ce que je dois faire pour que les gens autour jugent que je suis une bonne mère? Le souci, il est souvent là. C'est qu'on veut être une bonne mère. Du coup, on imagine, on projette sur les autres des attentes et on cherche à coller à ces attentes-là. Et souvent, hélas, ça nous mène à faire des choses qui ne sont pas tout à fait appropriées pour nos enfants.
Sur le plan affectif, vous insistez beaucoup sur la notion de réaction émotionnelle. Qu'est-ce qui se joue dans le lien parent-enfant ?
Le lien parent-enfant, il est extrêmement complexe. On s'attend à ce que, dès la naissance de l'enfant, il y ait un élan d'amour spontané et que on accepte l'enfant et qu'on l'aime profondément. Et on s'attend à ce que, dans notre imaginaire, pour tous nos enfants, ce soit exactement la même chose. Quand on interroge les parents, la plupart du temps, ils vous disent « j'aime tous mes enfants de la même manière ». Et si un enfant dit « maman, c'est pas juste, regarde, tu t'occupes plus de lui, moi tu m'aimes pas et tout », la plupart des parents répondent « c'est faux, je vous aime tous pareil ». Et dans la réalité, on sait bien que c'est pas vrai. Presque tous les enfants perçoivent les différences que les parents font entre les enfants. C'est pas tellement qu'il y a des chouchous, les enfants interprètent comme chouchou, pas chouchou, etc. Mais il est clair qu'on peut pas être le même parent pour chaque enfant. Et donc, il y a l'émotion d'amour et il y a tout le lien qu'on construit avec l'enfant au fur et à mesure de son évolution. Déjà, quand il vient au monde, c'est pas toujours si simple d'éprouver l'émotion d'amour. C'est vrai que pour certaines femmes et certains papas, certains pères, c'est automatique et spontané, ça vient.
Pour d'autres, c'est plus difficile.
Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile.
Et c'est tabou, je vous le dis dans votre livre, les mères ont du mal à le dire.
Qui ose dire « non, c'est pas si merveilleux que ça d'avoir un enfant, pour moi, c'est comme un petit être inconnu, je ne sens rien ». C'est extrêmement difficile à vivre, très traumatisant même pour les mamans. Du coup, elles le refoulent, elles n'osent pas en parler. Et comme elles n'osent pas en parler, eh bien, ça a tendance à s'accumuler. Et donc, je raconte au tout début du livre, je reflète les mots d'une personne qui est venue me voir en me disant « mais ça fait 12 ans que je n'arrive pas à aimer ma fille ». Et depuis sa naissance, en fait, elle n'était jamais arrivée à aimer vraiment sa fille. C'est-à-dire aimer. Elle dit, bien sûr, je peux pas lui dire que je l'aime pas. Parce que c'est pas vrai. Je l'aime. J'ai un sentiment d'amour pour elle. C'est-à-dire un sentiment de reliance. Elle est importante pour moi. Si elle mourait, si elle partait, je serais désespérée. Mais je n'éprouve pas l'émotion d'amour. C'est-à-dire cette sensation qu'on a là dans la poitrine qui fait que on sent vraiment quelque chose de très fort. Et ça manque.
Alors, justement, c'est intéressant de voir pourquoi il y a la raison d'un côté qui dit « il faut, je devrais », et puis le ressenti de la personne, ça, c'est l'inconscient là qui se manifeste, parce que vous parlez beaucoup de ça, de l'inconscient, ce monde un peu souterrain, la partie submergée de l'iceberg qui joue dans nos relations avec les enfants.
Et qui joue une place immense, et si je ne regarde pas ce qu'il y a dans mon inconscient, il prend la place. En fait, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aimer vraiment profondément un enfant dès le début et même un peu plus tard, c'est que nous avons des émotions bloquées. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à verbaliser. Peut-être on est dans une situation qu'on vit comme extrêmement injuste, douloureuse. Peut-être on a de la colère contre quelqu'un qu'on n'arrive pas à le lui dire. Peut-être qu'on a été humilié par nos propres parents ou par notre mari. Peut-être, je ne sais pas, il se passe quelque chose qui fait qu'il y a toutes sortes d'émotions que je refoule dans mon inconscient parce que personne n'est là autour de moi pour les écouter. On ne veut pas entendre qu'une jeune maman souffre, a du mal, vit des choses difficiles, peut être en colère, en rage peut-être, peut avoir peur. Non, on veut entendre qu'elle est merveilleusement heureuse d'avoir son bébé. Donc du coup, elle refoule tout. Sauf que toutes ces émotions refoulées l'empêchent de respirer librement et de du coup sentir l'émotion d'amour. Et quelquefois, elle peut même arriver à en vouloir à cet enfant. En même temps, elle refoule ça aussi dans son inconscient. Elle lui en veut de quelque part l'avoir privé d'une super belle naissance. Parce que on a tous envie de vivre ce moment absolument merveilleux de la découverte de l'enfant. On nous en a parlé. Il y a tellement de mamans ou de papas qui disent, dès que je l'ai vu, le monde s'est transformé, j'ai plus rien vu d'autre, je me suis sentie transportée. Ah, donc on a tous envie de vivre ça. Et quand on le vit pas, on en veut à l'enfant. Finalement, de nous avoir empêchés de le vivre, on projette sur lui. C'est pas lui, évidemment, qui l'a fait. On le sait aussi, alors on refoule ça. Et après, c'est très difficile d'arriver à retrouver le contact.
Repère, Béatrice Soltner.
Isabelle Filioza, dans l'éducation, il y a donc la raison, il faut être comme ça, il faudrait être bon parent en fonction du regard des autres. Et puis, il y a ce qui nous dépasse, qui est de l'ordre de l'inconscient. Vous venez d'en parler, vous avez donné l'exemple d'une impossibilité ou une difficulté à aimer l'enfant. Comment se manifeste l'inconscient dans d'autres cas, d'autres exemples dans l'éducation ?
Prenons un exemple tout simple. Notre enfant traverse la rue en courant. Et là, il y a comme un électrochoc à l'intérieur de nous. Notre cerveau doit trouver une réponse. Qu'est-ce que je fais ? Et le cerveau va chercher un schéma de réaction dans son passé. Est-ce que j'ai déjà rencontré ce genre de situation ? Et donc, si c'est la première fois que mon enfant fait ça, je vais retourner dans mon passé, inconsciemment, et je vais prendre contact avec un moment où moi-même, ça m'est arrivé de traverser la rue en courant. Et donc, ou moi-même, ou bien un de mes frères et sœurs, ou bien où j'ai vu un autre enfant faire cela. Et donc, il y a l'image qui vient, que je ne vois pas, hein, mais qui dans mon inconscient s'allume. Et à ce moment-là, je vais m'identifier à l'enfant que j'étais. En tout cas, c'est une des possibilités. Les possibilités, c'est sentir ce que j'ai ressenti moi enfant face à la réaction de mon parent à ce moment-là, ou bien sentir ce que mon parent vivait à ce moment-là. Le souci, c'est que si mon parent était dur, a été violent ou surpris, m'a donné une gifle, je vais être donc en contact avec ces émotions qui sont de je me sens pas compris, j'ai peur, je suis en colère, donc des émotions désagréables. Or, le cerveau choisit toujours la solution où il y a le moins de souffrance. Donc, il va éviter de sentir ce que j'ai senti quand j'étais enfant et hop, je vais aller dans être comme mon parent. Et c'est comme cela que nous répétons en réalité ce que nos parents nous ont fait.
Donc la réaction par rapport à cet enfant qui traverse la route, ça va être quoi ?
La gifle. Ou hurler. Oui, qu'est-ce que tu fais ? Et donc, c'est une réaction où, en général, on va dire, c'est la raison, il faut bien que je lui dise que c'est pas bien. Mais en fait, c'est pas vraiment raisonnable, parce que si on réfléchit, l'enfant, du coup, il ne va pas forcément, quand il va traverser la rue, faire attention aux voitures, il va faire attention à ce que maman est là. C'est-à-dire qu'il va à peur après de la gifle et non pas de la voiture. J'ai loupé. Bon, c'est un petit exemple tout simple, mais vers quoi je veux diriger l'attention de mon enfant ? Si, par exemple, il renverse toute son assiette ou son verre, hein, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? La raison, il faut que je sois un bon parent. Donc, je vais le gronder et le punir peut-être. Et ça, c'est notre image, parce que nous avons intégré que, raisonnablement, voilà ce que fait un parent. Parce que c'est ce que nos parents ont fait ou ce que nous avons vu faire depuis des générations.
Mais il faut bien mettre des limites quand même. C'est ce qu'on peut voir.
Et oui, et quelle va être la limite appropriée, Béatrice ? C'est quand on voit de l'eau ou du jus de fruits répandu sur la table, c'est de dire instantanément, comme on le ferait avec une de nos amies qui renverse son thé quand on l'a invitée à table, eh bien c'est « Oh, vite, une éponge !» Si je dis « vite, une éponge », je signifie à l'enfant non seulement qu'il y a eu une erreur et qu'elle peut être réparée, et qu'il peut la réparer grâce à l'éponge. Et donc, c'est une limite bien plus efficace que de dire « tu ne dois pas ». Rares sont les enfants qui font exprès de renverser leur verre. En tout cas, ça ne nous viendrait pas à l'idée, si on avait une de nos amies qui renverse son jus de fruits, de lui dire « ah, mais qu'est-ce qui m'a donné une amie pareille, vraiment, tu ne peux pas faire attention ?» Non. Donc, en général, on se précipite sur l'éponge et puis c'est tout.
Alors, l'enfant, vous avez dit que souvent, il nous dépasse parce que il a des comportements, il n'a pas forcément tous les cadres, il n'a pas intégré la loi à tel ou tel âge.
C'est sûr.
Comment, justement, l'aider à intégrer la limite et la loi tout en respectant qui il est ?
Alors, il y a une... c'est important, c'est vraiment très intéressant et très important cette dimension-là. Je me souviens d'une maman qui me dit « Ma fille... je venais de lui dire de ne pas ouvrir cette porte. Et en me regardant dans les yeux, elle a ouvert la porte interdite. »
À quel âge ?
Alors je me suis mise à hurler. 2 ans. Et on a tendance à dire ça, voilà, il faut faire respecter la limite. Et donc on va augmenter les cris, augmenter les punitions et chercher à faire de la surenchère de ce sens-là. Mais je lui dis, mais attention, elle a 2 ans. À 2 ans, on n'est pas encore capable de se représenter la loi. À 2 ans, cette petite fille, elle cherche à justement s'approprier la loi. Or, comment fait une petite fille de 2 ans quand elle veut s'approprier la loi ? Elle répète le comportement avec ses gestes. Elle n'a pas encore la capacité dans son cerveau d'imaginer ouvrir la porte, fermer la porte, interdit, etc. C'est trop compliqué ça. Donc, pour intégrer l'interdit,
elle ouvre la porte.
Elle ouvre la porte, c'est-à-dire qu'elle fait lentement et en regardant sa maman exactement ce que sa maman vient de lui interdire. Tous les enfants font cela. Et il s'agirait que enfin les parents se rendent compte que ce n'est pas de l'insolence, ce n'est pas je cherche les limites, ce n'est pas je force la fessée, c'est simplement je cherche à me mettre cet interdit dans la tête.
Donc l'intégrer.
L'intégrer.
Repère RCF.
Il n'y a pas de parents parfaits, c'est le titre du livre d'Isabelle Filioza, paru chez Jean-Claude Lattès. Isabelle Filioza, l'enfant a besoin d'une aide, d'un cadre pour grandir, vous le dites dans votre livre. En même temps, il a besoin de prendre son indépendance. Alors comment, en tant que parent, gérer ces deux choses ? À la fois aider à grandir, à se structurer, et puis à grandir en tant que personne unique, séparée de ses parents.
Oui, vous avez vu la couverture de mon livre, c'est le dessin de parents qui essayent d'être en équilibre sur un fil. Ben, c'est tout le temps ça, le métier de parent, hein. On est tout le temps en équilibre sur un fil, effectivement, entre la liberté que j'ai besoin de donner de plus en plus pour que l'enfant grandisse et éprouve son espace, et puis le cadre dont il a aussi besoin, on est tout le temps en train d'aménager. Et donc, en fait, comment faire concrètement? Eh bien, ne pas avoir de certitude. Si on a des certitudes, on risque de se tromper très souvent. Par exemple, un enfant de 12 ans ne doit pas faire ceci, cela. En fait, à chaque fois, j'ai besoin de me demander, mais où en est mon enfant? Et avec quoi est-ce que moi, je me sens confortable? Aujourd'hui, je me sens pas confortable avec le fait qu'il sorte, par exemple, plus tard que 10 heures. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que lui le vit? Tous les enfants de 12 ans n'ont pas la même maturité à l'intérieur. Comment est-ce qu'il se comporte à l'extérieur? On a besoin de communiquer davantage, de voir et d'évaluer. C'est pas non plus parce qu'un enfant dit oui, tous les autres parents, ils permettent de sortir jusqu'à 11 heures, t'es le seul parent à... Mieux vaut vérifier, parce que c'est pas toujours le cas. C'est naturel et normal que nos enfants cherchent à avoir le maximum de liberté possible, parce que eux, ils ont une pulsion vers grandir, vers devenir grand, évoluer et être libre. Et notre rôle à nous, c'est de leur donner beaucoup de permission de manière à ce qu'ils puissent éprouver suffisamment de liberté, tout en ne les mettant pas en situation de prendre des risques inconsidérés pour leur âge, que des risques eux ne peuvent pas mesurer.
Un thème abordé dans votre livre, c'est le pouvoir. Est-ce qu'on peut réduire l'éducation à une question de pouvoir entre parents et enfants?
J'aimerais bien qu'on cesse de la réduire à ça, parce que le problème, il est là beaucoup. Je trouve que actuellement, on entend un peu partout ce genre de discours « qui commande à la maison ?» comme si c'était la question la plus fondamentale « qui commande ?» Tous les enfants aiment faire ce que les parents demandent. Si un enfant se braque, si un enfant rentre dans une lutte de pouvoir, si un enfant fait ce qu'on appelle un caprice, pour moi les caprices, ce sont des jeux de pouvoir qui sont initiés par les parents. Inconsciemment, bien sûr.
Et de quelle manière?
Eh bien, par exemple, en donnant des ordres. Nombre de parents, parce qu'ils sont dans cette culture justement de rapport de pouvoir et qu'il y en a un qui commande et ça doit être le parent et que si je suis un bon parent, il faut que je sois celui qui commande. Du coup, ils se mettent à commander et ils donnent des ordres. Range ta chambre, mets tes chaussures, mets ton manteau, mets ton écharpe.
Généralement, ça marche pas en plus.
Évidemment. Et donc, pourquoi ça ne marche pas? Mais ça ne marche avec personne, les ordres. Ça nécessite que l'autre obéisse, c'est-à-dire, du coup... perde son sentiment d'être un individu propre. Or, un enfant, c'est un être en croissance. Alors évidemment, ça dépend des âges. Vous pouvez très bien dire à un moment, à un enfant de 10 ans, ferme la fenêtre, il va y aller, il va fermer la fenêtre. Mais un enfant de 2 ans, par exemple, vous lui donnez un ordre, il est obligé de se rebeller. Et donc, si vous lui dites « mets ton manteau » ou « va au bain », automatiquement, il va se braquer et dire non. Parce qu'il est justement dans une période...
La période du non.
La période du non. Mais elle n'est une période du non que parce que nous donnons un ordre. C'est nous qui forçons l'enfant à dire non. Parce que si au lieu de lui dire « mets tes chaussures », on lui disait « tu préfères mettre tes chaussures à lacets ou tes chaussures avec les scratchs ?» À ce moment-là, l'enfant aurait un espace pour définir son identité. Or, à 2 ans, c'est ça dont il a besoin.
Alors, on peut vous reprocher aussi que c'est une éducation un peu laxiste par rapport à celle qui existait autrefois, où les choses étaient claires, il y avait les parents d'un côté, les enfants. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Le laxisme, c'est quand on laisse à l'enfant tout faire et qu'on satisfait tous ses désirs. Et ça, c'est vrai que c'est toxique. Quand un enfant dit « je veux ceci, cela, je veux ce jouet qui est dans la... »
Dans la vitrine.
Un parent laxiste, il va acheter le jouet. Et il va acheter tous les jouets que l'enfant demande. Et donc, il va systématiquement passer à côté du vrai besoin de l'enfant. Parce que l'enfant ne sait pas formuler ses besoins, il formule des désirs. Mais nous, notre travail de parent, c'est justement d'arriver à permettre à l'enfant d'éprouver la frustration et de sentir, la frustration du désir pour sentir quel est son véritable besoin.
Oui, donc il y a de la frustration dans cette éducation-là.
Mais bien sûr, la frustration est inévitable, elle est structurante. Il n'est pas question de donner de la frustration exprès, mais d'apprendre la gestion de la frustration. Et ça, ça s'apprend en permettant à l'enfant de sentir ses désirs, mais pas forcément d'y répondre. Et donc, le problème du laxisme, c'est que des parents qui ont vécu une enfance trop autoritaire, où leurs parents étaient trop autoritaires, en ont été blessés et disent « moi, je ne veux pas ça ». Donc, du coup, ils ont aussi tellement souffert, été blessés, qu'ils ne supportent pas l'idée de blesser leur enfant. Alors, ils veulent être merveilleux et ils veulent être aimés de leur enfant. Et du coup, dès que l'enfant demande quelque chose, ils disent oui. Ils n'arrivent pas à supporter le non et surtout, ils n'arrivent pas à supporter la colère de l'enfant. Donc, pour ne pas sombrer dans le laxisme, pour être dans une véritable éducation qui soit non pas tolérance et laxisme, mais qui soit pédagogique, structurante et permissive, authentiquement permissive, donc qui va mener l'enfant vers une véritable liberté et vers la confiance en lui, il s'agit de trouver un juste milieu, toujours le fil pas évident de tenir dessus, mais d'être attentif à « est-ce que je sais ?» supporter que mon enfant soit en colère contre moi, que je regarde mon enfant dans les yeux, que je lui dis « oui, je vois que tu as très très envie de ce camion rouge, tu as le droit d'être très en colère, je te comprends, c'est vrai, il est chouette ce camion rouge, t'aimerais bien l'avoir », et qu'on ne se sente pas démuni à l'intérieur et on n'a pas l'impression qu'on est en train de lui faire très très mal ou quelque chose comme ça.
Isabelle Filioza, on sent bien que être parent, c'est se souvenir de son propre passé pour essayer de voir quelles ont été nos blessures et du coup quels sont nos réflexes. Mm-hmm. Et en même temps, comment changer ? Donc il faut faire la vérité avec soi-même, c'est pas forcément évident.
Et oui, et pour mieux aimer son enfant, la première chose, c'est d'arriver à aimer l'enfant à l'intérieur de soi.
L'enfant qu'on a été ?
L'enfant qu'on a été, c'est-à-dire que au lieu de regarder notre propre histoire comme ça de manière un peu superficielle en disant « ah oui, moi j'ai reçu des gifles, moi j'ai reçu des « ah, ça m'a pas fait mal » ou alors « ça m'a fait mal, je ferai pas comme ça », mais sans aller vraiment aux côtés de l'enfant, ça ne suffira pas. Donc pour vraiment guérir, j'ai besoin de revenir effectivement dans mon enfance et de sentir ce que l'enfant sentait. Et moi, aujourd'hui, d'être la bonne maman ou le bon papa de ce petit enfant que j'ai été. C'est-à-dire vraiment me mettre à l'écoute des émotions que j'ai vécues. Voilà.
Et ça se fait tout seul ou faut être accompagné ?
Ah, ça peut se faire un peu tout seul, mais c'est quand même nettement plus facile quand on est accompagné. Et osons nous faire accompagner parce que c'est vraiment une aide importante. Et quelquefois, on découvre des choses de soi-même qu'on n'imaginait pas. Justement, je rebondis là tout de suite, une personne qui me parlait, elle venait parce qu'elle supportait pas avec sa fille qui avait des gros problèmes en mathématiques. Et donc, elle hurlait, la punissait, ça ne marchait pas. Et donc, je lui ai juste demandé, et vous, comment ça se passait quand vous étiez enfant ? Est-ce que vous étiez bonne en maths ? Ah non, pas du tout, c'est vrai, moi non plus, j'y arrivais pas, j'étais nulle. Justement, c'est pour ça que je veux que ma fille, elle fasse des efforts. Je dis, est-ce que vous arriviez à réussir vos maths si vous faisiez des efforts ? Non, non, moi vraiment, j'y arrivais pas. Quand j'y pense, c'est quand même bizarre parce que la première partie de ma vie, j'étais excellente en maths et puis il y a eu une chute, ça s'est arrêté, j'ai eu tout d'un coup des mauvaises notes. Ah, c'était au moment du divorce de mes... Oh là, je me souviens. C'est-à-dire qu'en parlant, on se souvient beaucoup plus que si on cherche tout seul. C'est pour ça que c'est utile d'être accompagnée. Et donc, elle me dit, je me souviens, au moment du divorce de mes parents, je me suis dit dans ma tête, parce que mes parents ne s'occupaient pas de moi, ils ne s'intéressaient pas à moi, ils ne me voyaient pas. Alors, je me suis dit, si je commence à avoir des moins bonnes notes, ils vont commencer à s'intéresser à moi. Et donc, j'ai arrêté de travailler les maths, j'ai fait exprès d'avoir des mauvaises notes, j'ai mis des erreurs exprès dans mes maths. Et le problème, c'est que les parents ne se sont rendus compte de rien. Ils ont juste commencé à la punir parce qu'elle avait des mauvaises notes. Et elle a continué d'accumuler les mauvaises notes. Les profs ont commencé à lui dire qu'elle était mauvaise. Les parents ont commencé à lui dire, elle a cru, commencé à y croire. Et après, elle était persuadée qu'elle ne comprenait rien et qu'elle était nulle en maths. Elle avait totalement oublié qu'elle avait pris la décision pour que ses parents s'occupent d'elle. Il est bien évident que quand il se passe quelque chose comme ça, punir un enfant, l'empêcher de sortir, le priver d'ordinateur, l'enfermer dans sa chambre, ne l'aidera pas à s'améliorer en maths.
Isabelle Filioza, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Il n'y a pas de parents parfaits, paru chez Jean-Claude Lattès, un livre en plus avec un petit cahier, avec des exercices très pratiques pour les parents. Donc je vous conseille la lecture de ce livre, c'est paru chez Jean-Claude Lattès. Merci à Benoît Lhotte qui mettait en onde cette émission.